des luttes.
Je crois qu'il y a une manifestation qui se prépare.
Maintenant, il faut lutter. J'ameuterai l'opinion.
Des luttes sur 92 FM. On a sorti le landau et je suis avec Théo. Salut Théo.
Salut Julien.
Comment ça va ce matin ?
Eh bah ça va très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a du monde et plein de sourires sur plein de visages malgré le contexte difficile pour le monde de la culture. Les gens sont moins heureux de se retrouver et ça c'est quelque chose qu'on pourra jamais nous enlever.
Il y a du monde, il y a combien de monde à ton avis ?
Beaucoup, estimation à la baisse, mais non, je serais incapable de déterminer exactement combien de personnes on est. On est vraiment très nombreux, donc là on est sur le rond-point devant l'hôtel de région, le rond-point qui est complet, hein, c'est-à-dire qu'on déborde là sur la rue qui arrive, et un dispositif policier aussi qui est important.
Maintenant ça va changer.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire ce que vous voyez autour de vous ?
Une assez grande foule, comme disait Théo, avec pas mal de parapluies parce que bon bah il pleut, mais on est quand même là. Et il y a beaucoup de pancartes, beaucoup de drapeaux, de syndicats qui sont présents, du spectacle, du livre, de la culture en général, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt la culture qui s'est mobilisée aujourd'hui. On attend que le sport arrive.
Et qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on est là justement ce matin à l'hôtel de région ?
On est là depuis 8h30 et on est motivé parce que la région a annoncé une coupe budgétaire de 73% allouée à la culture. Et donc ça voudrait dire la mort de beaucoup de petits festivals, la déprogrammation d'un certain nombre de concerts. Enfin là, si on parle juste à Nantes, ça peut toucher l'Onyx, ça peut toucher le Panonica. C'est énormément de structures qui vont être empêchées dans leur accès à la culture et dans leur programmation, donc on est là pour ça.
Nous nous promenions ensemble dans un landau.
Toujours le landau.
Maintenant il faut lutter. J'ameuterai l'opinion.
Tac. Et donc, est-ce que pour toi, par exemple, est-ce qu'il faut que la culture, elle soit rentable ou pas ?
Moi, je suis fils d'intermittent. Je sais qu'on peut nous dire que on n'a pas notre mot à dire parce qu'on n'est pas économiste, mais à un moment, notre monde, il se mesure pas que par l'économie. C'est peut-être basique, c'est peut-être une réflexion... ultra basique, mais je pense que la rentabilité de la culture, elle existe que si on a suffisamment de projets, si les enfants sont heureux, si on peut avancer en société par l'art. Voilà, c'est comme ça que ça doit être rentable. Économiquement, en soi, c'est jamais rentable la culture, mais c'est primordial.
Moi, c'est pas la question. Enfin, je veux dire, la culture, c'est plus que de la rentabilité, une question économique. C'est surtout avant tout pour l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres, les échanges avec les autres. Et puis en plus, je trouve ça un peu hypocrite, sachant que pour Nantes en tout cas, l'économie de la ville de Nantes, c'est surtout aussi construit par rapport à la culture, parce que le nombre de choses qui sont faites autour de la culture, il n'y a qu'à voir avec le voyage à Nantes. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour ça. Et justement, c'est une ouverture, ça permet de faire venir des gens d'ailleurs. Donc pour moi, c'est un peu aberrant de tout ce qui s'est dit. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de venir manifester. Parce que sinon, ça ouvre la porte à ce qu'on régresse pour moi.
Bonjour camarade.
Bonjour jeune homme.
Alors tu es venu avec des pancartes, deux pour être précis.
Oui, c'est vrai. Je suis venu avec ma pancarte et la pancarte de ma compagne qui ne pouvait pas être là.
Donc porte-pancarte aujourd'hui.
Oui, porte-pancarte, porte-voix de moi-même et donc de ma compagne pour ce rendez-vous où je suis très content de voir autant de gens si tôt, avec un temps qui n'était vraiment pas porteur. On va peut-être avoir un rayon de soleil, ça serait super. Et ça réconforte un peu.
Alors qu'est-ce que tu nous as écrit dessus ?
Alors, eh ben écoutez, je les relis, hein, parce qu'il ne faudrait pas confondre. Il y en a un, pourquoi tant de haine ? Donc ça, c'est ma compagne qui trouve que, au-delà même des décisions qui ont été prises, elles ont été formulées, dites et portées par la présidente de façon très abrupte, très radicale, en fait, par rapport à beaucoup de gens qui sont impliqués très fortement dans plein de domaines. Il y a une façon aussi de parler aux gens, une façon de dire les choses aussi, hein, même si on a chacun ses opinions. Et la deuxième, c'est du vraiment n'importe... Oh là, je laisse parler...
Il y a des prises de parole pendant ce temps-là, pendant qu'on discute.
Et la deuxième, c'est du vraiment n'importe quoi. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à cette idée-là de réduction drastique et puis radicale, c'est aussi des secteurs, là on parle de la culture, et puis en fait il y a aussi tout ce qui est associatif, hein, donc c'est vraiment une énorme pan de la société qui va être marquée, enfin localement en plus, donc c'est vraiment en plus que des choses qui sont de l'ordre du vivre ensemble, hein, de la relation à l'autre, et en plus avec plein d'emplois. Alors on dit oui, c'est pour préserver l'emploi de l'autre côté, pour soutenir l'emploi, mais là il y a plein d'emplois aussi qui sont menacés pour ces... Donc moi je comprends pas pourquoi on... Pourquoi on prend, enfin si, où je comprends trop bien, oui, hein, que pourquoi on prend le domaine de la culture, qui est le domaine de réflexion, de la rencontre à l'autre, de la prise de position, de la découverte, et que tout ça soit vraiment laminé comme ça, de façon aussi radicale, sans aucun, je sais pas, attention, je dirais même en plus. On peut comprendre qu'il y a des problèmes budgétaires, on aimerait bien qu'ils soient plus étalés, les problèmes budgétaires, parce qu'on a des chiffres. Mais le budget, l'argent, est-ce que ça, c'est pas exposé, on le voit pas dans la presse. Hein. Moi, je regarde les bêtes journaux, hein, locaux, je vois, dans Ouest-France, j'ai pas la liste publiée en disant, bon, le budget, il est supprimé parce qu'on garde l'argent pour ça et pas pour ça. Très nettement, s'il y a des choix, il faut nous les expliquer, les revendiquer. Et dire, ah bon, moins d'argent à la culture parce qu'on veut pas que la culture se développe, on veut pas que ça se maintienne, voilà, faut le dire.
C'est ce qui est ce qu'on comprend en tout cas dans le fond, ouais. Mais ce qui est exprimé effectivement, comme tu disais tout à l'heure, avec une grande violence.
Ouais. Voilà ce que ça y est.
Un ras-le-bol, voilà. Général. Bon, et puis c'est bien parce qu'au moins tes pancartes, tu pourras les réutiliser pour d'autres manifs.
Oui, c'est ce qu'on a constaté en arrivant. On s'est dit, ah oui, bah voilà, il y aura l'occasion sans doute. J'espère qu'elles vont tenir, s'il n'y a pas trop de pluie, quoi, hein, parce que c'est du carton.
Voilà. Bon, on te souhaite une bonne manif. Merci.
Il faut que toutes les personnes qui constituent la masse deviennent pleinement conscientes de ce qui les attend,
attends.
C'est la même chose qui les attend toutes. Et c'est à cette condition que la masse proprement devient masse. Alors, la masse, tout naturellement, trouve le moyen de son autodéfense. C'est le mouvement de masse. On nous demande ce que nous voulons. Voici la réponse. Nous voulons le mouvement de masse. Si l'offensive est générale, nous voulons le débordement général.
Sans fin.
Prune des Luttes, toujours en direct de la manifestation donc, du 25 novembre 2024. Nous sommes devant, enfin, sur la place de l'hôtel de région. Et Julia, tu vas recevoir une déléguée syndicale de FO.
Oui, c'est ça. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, Gisèle Marek, je suis secrétaire générale du syndicat FO pour le personnel du Conseil régional et je représente également la Fédération nationale FO des services publics et de santé.
Et pourquoi est-ce que vous êtes là ce matin ?
Alors nous sommes là, nous avons appelé, les quatre syndicats ont appelé en intersyndicale, donc l'ensemble de nos collègues à se mobiliser et à donc se rassembler ce matin pendant une heure devant l'hôtel de région pour manifester leur mécontentement et plus que leur mécontentement, leur colère, leur inquiétude également, suite à l'annonce brutale de la présidente de vouloir donc supprimer 100 postes, 100 emplois permanents dans les services de la région.
100 postes supprimés d'ici 2027, il me semble. Qu'est-ce que ça, comment ça se passe en interne ? Parlez-nous un peu des relations en interne. L'ambiance, elle doit être tendue, j'imagine.
Alors l'ambiance est lourde, l'ambiance est particulièrement pesante. On a notamment dans certaines directions beaucoup de collègues qui sont potentiellement impactés. C'est le cas de la direction de la culture, c'est le cas pour le sport, c'est le cas également pour la vie associative, l'environnement. Donc ce sont en plus souvent des collègues qui sont particulièrement engagés dans leur travail. Parfois c'est presque un métier passion pour eux et ils ont vraiment reçu un coup sur la tête. Ils le vivent comme ça et presque comme une trahison en quelque sorte.
Un coup sur la tête, une trahison. Et vous, comment vous le vivez personnellement ?
C'est totalement incompréhensible, si vous voulez. Alors d'abord, il est quand même utile d'indiquer que les représentants du personnel, les organisations syndicales, n'ont absolument pas été consultés, reçus. Nous l'avons appris en tant que délégués syndicaux, organisations syndicales, au même titre que nos collègues. Aucune explication, aucun espace de discussion. Nous n'avons été reçus que jeudi matin, une fois que les annonces étaient faites, une fois que les dossiers pour la prochaine réunion du Conseil régional qui doit voter le budget prévisionnel, que ces dossiers étaient bouclés. Donc c'est un mépris total de la représentation du personnel. C'est vraiment le niveau zéro du dialogue social. C'est une volonté c'est même une non-reconnaissance de la démocratie sociale. Et donc nous appelons nos collègues et nous considérons surtout, ça c'est, je vous parlais de la forme en vous disant ça, mais nous considérons surtout que supprimer 100 emplois n'est pas une impérieuse nécessité, c'est pas une fatalité. Les dépenses de personnel représentent 15% du budget de fonctionnement à la région, alors que dans une commune c'est 50%. Donc certes, effectivement, les décisions que s'apprête à prendre le gouvernement auront un impact sur les recettes des collectivités territoriales. Nous le savons tous, nous ne sommes pas irresponsables. Pour autant, on a pu constater, alors d'abord, on considère que les agents, le personnel de la région n'a pas à faire les frais du quoi qu'il en coûte au niveau national, n'a pas non plus à faire les frais de certaines dépenses récentes au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois, dans les services de la région. Par exemple, repeindre l'hôtel de région en bleu, acheter un bâtiment, il n'y avait pas d'utilité objective, l'aménager en imposant d'ailleurs le flex office à une partie du personnel qui n'en voulait pas, l'aménager avec un design assez coûteux et ironie du sort, aujourd'hui, une grosse partie des agents qui risquent demain, si les emplois sont supprimés, d'être sans activité, se concentrent dans ce bâtiment.
Et pas de dialogue social, des pratiques un petit peu, on pourrait dire, dictatoriales. Qu'est-ce que ça dit d'une manière plus globale de la politique régionale de ces dernières années ?
Alors moi, en tant que représentant syndical, je ne commente pas les décisions politiques régionales. Je reste sur mon terrain qui est celui de la défense des intérêts matériels et moraux du personnel, leurs conditions de travail. Il est vrai, ce dont je peux témoigner, c'est que depuis quelque temps, des décisions importantes qui impactent le personnel sont prises sans aucune discussion. Là encore, en mettant les représentants du personnel devant le fait accompli. C'est le cas pour, par exemple, imposer le flex office, je vous en parlais à l'instant. C'est le cas également pour un projet qui s'appelle la territorialisation, qui consiste à imposer une double hiérarchie à certains de nos collègues qui travaillent dans les départements. C'est un schéma qu'on a connu par le passé qui a causé beaucoup de dégâts. Voilà des sujets forts sur lesquels nous n'avons aucun espace de discussion. Ça nous est tout simplement imposé. Le dialogue social à la région se résume à convoquer les instances où siègent les représentants du personnel tels que prévus par la loi pour leur demander leur avis quand c'est prévu par la loi, et puis c'est tout.
Bien, merci, je pense que le message est passé. Merci beaucoup et bonne continuité de manifestation.
Prenons la rue sur Prune 92 FM.
Prune des luttes, on est toujours en direct de la mobilisation contre les coupes budgétaires de la région. Et alors aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, on reçoit Maxime Séchaud. Je vais dire une bêtise, excuse-moi. Secrétaire général adjoint de la CGT Spectacle, donc au niveau national. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Donc là aujourd'hui, c'est une manifestation contre les coupes budgétaires. À peu près 73% du budget qui est alloué à la culture va être coupé, ce qui comprend donc tout le monde du spectacle, des musées, mais aussi des associations et notamment des associations sportives. Alors, est-ce que tu peux nous dire là la mobilisation en quoi elle consiste et qu'est-ce qu'il y a comme revendication au cœur de cette manif?
Alors en ce moment, étudier en fait ce qu'on appelle la loi de finances pour l'année 2025. Le gouvernement, qu'on considère en plus comme illégitime, demande en gros 8,5 milliards d'économies aux collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, il faut comprendre, elles ont des compétences obligatoires. Par exemple, une région, elle est obligée de financer un lycée. La culture, ça ne fait pas partie des compétences obligatoires. Donc du coup, comme il y a des économies qui sont demandées, on devient une sorte de variable d'ajustement. Et donc on va dépendre du bon vouloir de certaines régions, départements ou communes pour savoir à quelle sauce on va être mangé en gros. Et là on est un petit peu stupéfait parce que par exemple cette région, Pays de la Loire, a annoncé, comme vous venez de le dire, des coupes énormes alors même qu'on est attaqué à toutes les échelles. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des coupes au niveau national, il y a des coupes au niveau régional, il y a des coupes au niveau départemental et il y a certaines communes qui se désengagent. Alors ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, c'est une hécatombe. C'est pas une crise, hein, c'est vraiment une hécatombe. Et nous, on va dire le nom, c'est un plan de licenciement. C'est-à-dire que là, on est en train, indirectement ou voire directement, de licencier des milliers de personnes et de balayer d'un revers de la main, sans consultation, sans concertation, sans discussion avec les actrices concernées par ces sujets, la vie de milliers de personnes.
Et alors on peut le préciser aussi, parce que au niveau de la région de la Pays de la Loire, c'est-à-dire que la présidente de région, en plus, fait du zèle. C'est-à-dire qu'au-delà des coupes qui lui étaient demandées, elle va au-delà de ces coupes-là.
Exactement, elle va au-delà en dénonçant, selon elle, une politique de guichet. C'est pas une question de guichet, hein, c'est de l'argent public. Nous, on travaille, on est un service public comme les autres. C'est-à-dire qu'on travaille à ce que les territoires soient inondés de culture, accessibles, avec des personnes qui peuvent travailler dans les centres sociaux, les missions locales, les lycées, les écoles primaires, sous forme d'ateliers, sous forme de spectacles. On est un secteur essentiel, il me semble.
Un secteur essentiel, mais qui pourtant reste assez précaire, et justement qui est assez dépendant de ces subventions. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être un autre système qui pourrait pérenniser la situation, alors je pense aux intermittents du spectacle, mais au monde de la culture en général, comment est-ce qu'on pourrait créer un système qui soit moins dépendant de ces décisions arbitraires de l'État, qui sont sur des décisions purement gestionnaires, capitalistes?
Mais alors, je pense qu'au contraire, il faut faire en sorte que ces subventions soient renforcées, parce que ça nous permet, nous, de sortir d'une logique marchande. Parce qu'il y a une forme de culture qui existe sans subvention. Oui. Mais du coup, le prix d'un ticket pour aller voir un spectacle non subventionné, ça peut aller à 50 euros minimum, voire 200 euros selon là où on est placé dans certaines salles parisiennes. Oui. 200 euros, qui aujourd'hui peut les mettre? Donc pour nous, c'est important de pouvoir monter des projets de pratiques artistiques, de diffusion artistique auprès de tous les publics, pour tout le monde, à des prix accessibles. Et oui, je vois pas d'autre solution que de... En fait, c'est pas, on dépend pas des subventions pour moi, on dépend de c'est comme, faut plus l'imaginer comme une grande boîte où on collectiviserait notre argent, et que c'est l'argent des travailleuses et des travailleurs qui permet de le redistribuer autrement et de ne pas le capitaliser, justement, de ne pas le mettre sur le marché, mais de le partager entre nous pour pouvoir s'offrir mutuellement des accès comme celui de l'accès à la culture, mais au sport, comme vous l'avez cité, ou à l'associatif.
Oui, ça, donc assumer plus la fonction de service public qu'il y a au sein de la culture en soi.
Exactement.
Et alors, il y a eu des attaques aussi très récentes là, du MEDEF qui ont été faites sur le statut d'intermittent du spectacle, avec une volonté, mais c'était déjà le cas il y a un an, de vouloir augmenter le nombre d'heures pour avoir accès à l'intermittence. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette multiplication des attaques là, qui, se fait, donc, qui s'est fait il y a moins d'un mois, ensuite maintenant cette coupe budgétaire, pourquoi cette recrudescence d'attaques sur le milieu de la culture?
Alors juste pour préciser, du coup on n'est pas un statut, parce que notre statut c'est salarié. Oui, c'est juste qu'on va être salarié par intermittence. Mais du coup on a un régime spécifique d'indemnisation. Le MEDEF a essayé de nous attaquer l'an dernier, il réessaye de nous attaquer. En fait c'est un jeu de rapport de force, c'est-à-dire que c'est des annexes spécifiques au sein de l'assurance chômage. Ils arrivent à attaquer l'assurance chômage sur le régime général, mais c'est toujours dur de mobiliser malheureusement les plus précaires parce que par essence ils sont précaires, du coup souvent isolés, et donc ils arrivent à s'attaquer au régime général assez facilement. Nous on est encore un secteur, vous voyez, quand l'annonce elle est passée, on était des milliers à s'être mobilisés en 24 heures dans toute la France. Donc on est encore un secteur qui arrive à se mobiliser, ce qui montre que quand on lutte, ça peut payer. Donc on arrive à faire reculer les attaques du MEDEF. Maintenant, c'est pas suffisant. Parce que nous, on défend l'assurance chômage comme un régime de solidarité interprofessionnelle. Cette assurance chômage, on ne peut pas la détacher de l'intermittence. C'est interconnecté, si vous voulez. Et donc, et surtout quand on s'attaque à l'emploi, mais partout en France, hein, on ne s'attaque pas que à la culture. Il y a le nombre d'usines qui ferment, le nombre de camarades qui sont aujourd'hui en difficulté. Derrière, on s'attaque aussi aux droits des chômeurs. En général, quand on s'attaque aux droits des chômeurs, c'est que derrière, ou en même temps, on s'attaque aux droits des salariés. Donc c'est pareil, la lutte de l'assurance chômage, elle ne peut pas se faire sans les salariés, pour nous. Et je pense qu'en ce moment, on est dans un combat idéologique. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui veulent un autre système, qui veulent s'attaquer à l'argent qui est collectivisé, à l'argent qui sommeille et qui ne serait pas mis sur les marchés. Et nous, c'est un modèle social qu'on doit défendre. C'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre façon de mutualiser notre argent et notre force de travail. Et face au capital, il n'y a qu'une seule solution, c'est de se mobiliser et de faire entendre que le monde du travail, c'est eux qui détiennent les vraies richesses et c'est eux qui doivent les distribuer.
Alors là, des mobilisations effectivement qui sont importantes pour le milieu de la culture, on le voit encore aujourd'hui. D'ailleurs, là, tout bientôt, dans quelques jours, si je ne dis pas de bêtises, ou c'est dès aujourd'hui, qu'il y a les élections pour les syndicats en ce qui concerne les toutes petites entreprises et donc aussi le milieu du spectacle. Est-ce que quelque part, ça ne peut pas être profitable aux syndicats et de se dire que là, il y a possiblement un regain de mobilisation qui va se faire et potentiellement, et ça on peut l'espérer, un investissement un peu plus massif au sein des syndicats?
Alors ce serait effectivement, je pense que c'est plus important que jamais qu'aujourd'hui on s'empare des outils collectifs, hein. Souvent on entend cette phrase que font les syndicats, mais les syndicats c'est nous. Enfin, moi je suis comédien et metteur en scène, mon métier je le pratique encore, même malgré que j'ai des mandats assez importants en ce moment, mais quand je dis important c'est conséquence en temps de travail, pas importance. Pardon, je me suis un peu perdu.
C'est les syndiqués qui font le syndicat, voilà.
C'est exactement. Avoir un poids quand on va négocier, ça nous permet d'avoir un poids quand on va réfléchir et parler avec le patronat sur nos négos collectives. Et du coup, ça peut paraître pas forcément une priorité pour beaucoup de personnes. Mais là, les TPE, c'est capital, surtout dans le secteur de la culture, où, comme vous l'avez dit, on est nombreux et nombreux à travailler, par exemple, pour des petites compagnies ou des assos où il y a moins de 15 salariés. Et donc, du coup, les TPE, c'est vraiment capital pour être bien représenté dans le monde du spectacle.
Donc, on peut que vous inviter, auditoris, à vous engager dans les syndicats de votre choix et de votre profession. Car oui, c'est un outil qui nous appartient et c'est pas quelque chose qu'on rejoindrait avec tout mis en place. C'est à nous d'investir ces objets de lutte. En tout cas, merci Maxime,
merci
d'être venu.
Et bon courage.
Eh bien, merci beaucoup Théo pour ta prise d'intervention. Et je me permets de poser une dernière question. Si vous aviez une question à poser à Christelle Morançais, laquelle serait-ce?
Vous n'avez pas honte? Voilà, c'est ma question.
Merci beaucoup. Et cette question, on l'a posée à tout plein de manifestants et manifestantes autour de nous. On vous laisse écouter leurs réponses.
Donc en fait, là, ce que je voulais vous demander, c'était un peu, quelle est votre question à la présidente de région, Christelle Morançais?
Oui, bonjour Christelle. Bon bah, Christelle Morancet, pourquoi ce choix? Bon, on imagine, enfin, on connaît très bien la réponse hein, avec une politique de droite, voire d'extrême droite aujourd'hui. C'est bien dommage que ça ne correspond pas du tout au désir de la population. Puis on le voit aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde. Et la culture, c'est quelque chose de très important. Et on est super déçus de ce genre de situation. Mais moi, j'ai du mal à y croire. Je suis un peu dans le déni. Je me dis qu'elle va rebrousser chemin, forcément, parce que je ne vois pas comment les choses peuvent se faire autrement.
Est-ce que vous avez posé la question aux Ligériens, qui sont les contribuables, sur le... Ben, effectivement, il faut faire des coupes dans les budgets, mais à quel endroit on les fait? Est-ce que vous avez réellement posé la question aux habitants des Pays de la Loire?
Bonjour, je suis Mario au micro de Prune ce matin pour la mobilisation pour le secteur de la culture devant le conseil régional. Je suis en présence de Marie et Héloïse qui sont respectivement salariés de l'association ALIP, l'association des libraires de Pays de Loire et libraires donc en Pays de Loire. Alors comme première question moi, que j'aurais souhaité, que j'aurais eu envie de vous poser, c'est à quel point le secteur du livre et de la librairie en Pays de Loire dépend des subventions du conseil régional et à quoi pourrait ressembler le secteur, enfin ce secteur-là dans 2 ans si jamais la coupe est effectivement votée et les subventions effectivement réduites.
Alors pour ce qui est de l'ALIP, donc, qui est l'association qui regroupe les libraires indépendants en Pays de la Loire, nous c'est 46% de nos ressources puisque la subvention est totalement supprimée. Nous on œuvre en fait pour que le maintien des librairies en Pays de la Loire, donc on, à travers la formation, à travers un portail de commande et de réservation qui s'appelle librairie au pluriel-ali.fr, qui est un vrai service pour les Ligériens, qui permet de commander chez ces libraires de proximité. Donc en fait, à terme, en fait, cette association pourrait disparaître. Voilà, c'est un coup dur pour la structuration de la filière du livre en Pays de la Loire.
Dans l'association ALIP aujourd'hui, il y a, ça représente combien de salariés, combien d'adhérents aujourd'hui?
Alors une salariée pour 83 librairies adhérentes, en sachant que pour le coup, on ne peut pas nous accuser de ne pas faire attention à l'argent public.
Donc une question pour Héloïse. Donc toi, tu t'es déplacée ce matin pour venir aussi soutenir le mouvement. Quelle importance ça a aujourd'hui les subventions régionales dans ton activité et dans le secteur de la vente de livres?
Alors, nous libraires, on vend des livres, mais on est aussi acteurs culturels. Les subventions de la région, on les touche aussi directement en librairie pour permettre de faire des animations à la librairie tout au long de l'année. De l'animation gratuite, des rencontres d'auteurs, des spectacles, des ateliers avec des illustrateurs jeunesse. Tout ça, demain, si on n'a plus ces subventions, on ne pourra plus en faire ou plus payer les auteurs. Donc c'est aussi une paupérisation des auteurs qui ne sont pas systématiquement payés au moment des rencontres. Cette subvention nous permet de rémunérer les auteurs sur les rencontres qu'on a fait. Nous, cette année, on a fêté les 10 ans de la librairie. On était 3 librairies de l'Or Atlantique. On a obtenu une belle subvention de la région qui nous a permis de faire une grosse programmation culturelle, de rémunérer l'intégralité des auteurs qu'on a reçus sur l'année. Et demain, s'il n'y a plus cette subvention, on ne pourra plus les rémunérer.
Donc comme quoi, les subventions publiques, elles permettent aussi à des créateurs, à des artistes de vivre de leur création, quoi.
C'est ça. Demain, si on ne peut plus faire d'animation, nous, dans notre métier, pourra se poursuivre quand même. Mais la rentabilité en librairie, elle est extrêmement faite. C'est de l'ordre de 1%. Donc, ce n'est pas sur l'argent qu'on fait sur la vente de livres qu'on pourra se permettre de faire de l'animation en plus à côté.
Et alors, du coup, ça m'amène une question qui est le discours porté par Christelle de la Morancet, donc la présidente de région, il repose sur l'idée que la culture... celle qui est légitime, en tout cas, c'est celle qui doit être rentable. Qu'est-ce que tu penses de ce discours et de cette idée?
Ah bah évidemment, je suis complètement contre. Nous, on fait de l'animation gratuite en librairie. Et ça nous permet de proposer de l'action culturelle à des publics qui ne pourraient pas forcément en bénéficier. On est dans des petits lieux, on est en milieu rural pour une grande partie des librairies, et donc c'est aussi amener la culture différemment. Aller au théâtre, à l'opéra, c'est pas donné à tout le monde, et finalement offrir de l'offre, enfin avoir de l'offre culturelle dans des petites communes, dans des petites librairies, c'est ce qui permet aussi de toucher beaucoup plus de monde. Et puis bah évidemment, enfin la culture c'est hyper important pour tous, pour réfléchir, pour penser, pour voilà, on peut pas vivre sans de toute façon.
Est-ce que tu aurais un dernier mot à passer à la fin de ce question-réponse ?
Ah bah, il faut continuer à se battre, il faut réussir à convaincre les élus à tout niveau, que ce soit que la culture c'est un service public comme peut l'être l'école ou l'hôpital, qu'on en a besoin, que la France en a besoin, et on a besoin d'être subventionné parce que c'est pas quelque chose qui peut être rentable.
Très bien, bah merci respectivement à Marie, salariée de la LIP, et à Héloïse, libraire à Nantes.
À la
Bernerie-en-Ré, très bien. Merci à toi.
Merci Mario, et merci à nos camarades libraires. Vous êtes sur Prune, dans l'émission Prune des luttes. Et Prune, c'est forcément une pause cadeau. Et bien, c'est maintenant.
La pause cadeau.
Et oui, on est bien sur Prune, et pour la pause cadeau, on va parler agenda culturel de l'année, parce qu'on va pas rester que sur du négatif, et tant qu'à parler culture, on va parler de l'année 2025-2026. Au programme, le Festival du cinéma espagnol en mars, il y aura une super programmation et... Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on peut faire une croix dessus. Bon, on va aller du côté de la scène musicale. Pensez à prendre vos billets pour les concerts de Zao de Sagazan. Ah, pas au Stéréolux ? Ah, ni à l'Onyx, ni au Panonica. Ils vont tous devoir réduire leur programmation. Eh bah, c'est super. Bon, bah, pour le théâtre, j'imagine que le Grand T pourra quand même ouvrir à la fin des travaux. Ah ouais, non ? Bon, bah, je vais découvrir notre autrement. Hein. On va peut-être regarder les pavés, par exemple.
Merci Lilia. Et je me tourne vers toi, Théo. Il me semble que, puisque la culture, c'est aussi sur tous les intermittents.
Oui, un domaine que je connais, puisque je vais bientôt le pratiquer.
Voilà. Je croise les doigts pour toi.
Merci. Et donc là, je suis avec un camarade et partner in crimes, comme disent nos compatriotes américains ou anglais. Et donc voilà, ce que je voulais revenir avec toi, Hugo, c'est qu'il y a toute une logique en termes de discours là, qui est amenée par la présidente de région, qui est de dire qu'elle ne fait globalement pas de politique, qu'elle est juste seulement une bonne gestionnaire, et que ce n'est pas un choix idéologique que de couper dans la culture. Pourtant, c'en est un, puisque dire que la culture devrait être quelque chose de rentable directement, c'est-à-dire que pour 1 euro injecté, par exemple, de subvention, il devrait ressortir 1 euro directement en prix d'entrée ou quoi que ce soit, c'est une logique capitaliste. Il existe des arguments qui vont contre ça, mais qui restent dans une logique capitaliste, par exemple de dire que l'argent qu'on investit dans la culture peut être redirigé et servir aux restaurateurs, aux hôteliers, etc. Mais on reste dans une logique qui concerne encore et toujours la finance et le marché. Comment est-ce qu'on pourrait sortir de cette logique, et quelle pensée on pourrait amener pour réfléchir la culture différemment, peut-être plus que dans un service public, quoi.
Bah, alors en effet, et puis ça ils le savent déjà très bien, t'as qu'à voir dans les périodes où ça commence à chauffer, dès que ça commence à approcher d'Avignon et que ça menace de se mettre en grève, ils le savent qu'on peut arrêter, ils le savent que ça peut foutre la merde au niveau du tourisme, donc tout ça ils sont au courant. Maintenant, il y a aussi un truc auquel il faut réfléchir, c'est que nous, comme tous les métiers utiles, on n'est pas là pour créer de l'argent, on est là pour en dépenser, et on est là parce qu'on crée une autre valeur, on n'est pas là pour mettre pour valoriser un capital financier, ça c'est pas notre affaire en fait. On n'est pas là, c'est l'affaire des parasites capitalistes, ça ne nous regarde pas. Nous, on est avant tout là pour créer une sociabilité, on est là pour créer un espoir, on est là pour élargir la vie. Ça nous regarde. Et de manière plus artisanale, y a des applications, tu vois, à ce qu'on fait. Mais en fait, toute cette affaire financière, ça ne nous regarde pas. Nous, on ne veut pas jouer ce jeu-là. Et en effet, je pense qu'on se fourvoie à essayer de se justifier, à dire oui, mais si, on rapporte de l'argent. En effet, on rapporte de l'argent. Ça, déjà, on peut en être conscient. Et on peut avoir cet orgueil-là de le dire, on n'est pas un poids. Mais de surcroît, on crée une valeur en plus. C'est pour ça qu'on existe.
Exactement comme on peut penser à tout le secteur de la santé, quelque part.
Ouais, voilà, exactement. Et tu vois, c'est un truc qui est déjà pris en compte d'une certaine manière, parce que dans notre statut, moi je parle en tant qu'intermittent, dans notre statut, on a du coup un revenu, enfin dans notre régime, on a un revenu qui tombe tous les mois, qu'importe si on travaille ou pas. Après, il va varier en fonction des prestations qu'on va faire pendant le mois, mais on est sûr d'avoir un apport financier qui nous permet, nous, de travailler de notre côté. D'une certaine manière, alors c'est pas la même chose, mais ça se rapproche de ce qui existe pour les fonctionnaires, où en fait, bah, ils ont fait leur preuve et ils ont le droit à un revenu, parce qu'on part du principe que ça y est, ils savent faire ça, ils vont bosser. On part du principe que de toute manière, on est des êtres productifs. Maintenant, la complication avec notre statut, enfin avec notre régime, c'est qu'il faut le renouveler tous les ans. Hein, tous les ans, c'est la course aux 507 heures. Et donc là, on retourne dans une forme de précarité, parce que bah, faut qu'on court après l'emploi. Mais une fois qu'on l'a, on sort quand même d'une certaine précarité, c'est un peu mieux, on va pas se mentir. Mais voilà, on peut essayer de lutter dans ce sens-là, à faire réduire le nombre d'heures, ça a déjà existé. Et il faut savoir que si aujourd'hui c'est à 507 heures, c'est parce que ça a été calculé comme un trimestre de boulot à 37 heures à peu près. À l'époque, on était à 37 heures, on est à 35 heures aujourd'hui, ça a toujours pas baissé. Faudrait peut-être déjà commencer à se bouger là-dessus et essayer de voir plus loin, et essayer de voir à élargir ce truc-là à tous les travailleurs et les travailleuses. Parce que... c'est bien beau de se battre pour nos droits à nous en tant que travailleurs travailleurs et travailleuses de la culture, mais en fait il faut aussi se rendre compte que tous les autres secteurs vont avoir un impact sur nous, tous les autres secteurs où on va avoir des travailleurs et des travailleuses précarisés, c'est-à-dire qu'il y a des travailleurs et des travailleuses qui vont se retrouver à accepter des conditions de travail plus précaires que les nôtres. Enfin, t'imagines aller voir ton patron lui dire bah en fait non je veux pas travailler dans telle condition, il te dit bah dégage, j'ai quelqu'un d'autre qui va accepter. Bah on l'a dans l'os. Donc faut qu'on arrive à se mettre en commun, et ça en effet, et je soutiens ce qu'a dit le camarade tout à l'heure, ça passe par se syndiquer et ça passe par par les structures qui existent déjà, qui sont les syndicats quoi.
C'est reprendre en main alors les syndicats, mais pas que, c'est reprendre la main quelque part sur le salaire, sur tous les aspects politiques qu'on peut avoir dans notre vie.
Ouais, bien sûr, c'est exiger qu'on ait un salaire avant le travail. C'est l'exiger comme un prérequis au fait de travailler. En fait, il y en a ras le cul de se... On n'est pas là pour dire on va travailler et on aura le droit à notre pitance. Non, faut qu'on puisse bouffer, faut qu'on puisse se loger, faut qu'on puisse vivre décemment pour pouvoir bosser décemment.
Le salaire dégagé de l'emploi, comme pourrait dire un certain Bernard Friot.
Voilà.
C'est peut-être un peu aussi ce qu'on a avec l'intermittence, en tout cas. Eh ben, merci camarades pour ces rappels d'utilité communiste. Lâchons le mot une bonne fois pour toutes, parce que c'est quand même ce dont on rêve. Et on me fait, alors c'est la fin, c'est ça, il faut qu'on dise au revoir.
N'oubliez jamais que c'est la faute du gouvernement. La production industrielle aliénée fait la pluie. La révolution fait le beau temps.
Et bah c'est maintenant donc l'heure vraiment de se dire au revoir.
Ça y est. Avant peut-être un petit mot sur l'impact de cette baisse de subvention.
Ah oui, sur
les radios associatives et donc sur Prune, ouais.
Évidemment, parce qu'on fait partie du milieu de la culture, donc on bénéficie de ces subventions.
Et oui, et on une est baisse là aussi qui... en tant que manifestant, bien sûr.
Bien sûr. Une baisse qui pourrait s'élever jusqu'à 10 000 euros, c'est ça ?
C'est ça. Et qui ferait un effet domino, puisque d'autres acteurs de la culture avec qui on travaille seraient aussi impactés, quoi.
Oui, parce que bien sûr, on ne fonctionne pas en vase clos. Tous les milieux se côtoient et s'influencent.
C'est ça. Et on sort quand même d'une lutte contre la baisse du FSER. Alors ça fait beaucoup.
Voilà.
C'est vrai que ça s'arrête.
Laissez-nous du fric. Et nous, on fera des trucs bien.
Ouais, promis. On fera des trucs trop cool. Bah salut Théo.
Salut Julia. Et à bientôt en manif.
Bah bien sûr. Hein.
Syndiquez-vous.
Silence.